Non, pas du tout. Là? Ça fonctionne un peu mieux? Bon, là, parfait. Alors, je me présente. Merci, Pat. Deux bouteilles d'eau. Excellent. Je suis gâté ce matin. Je vais en avoir besoin, je pense. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, je me présente, Mathieu Fortin. Ça fait à peu près 5 ans qu'on vient à l'église ici. Ma famille et moi, ma femme Maude, mes 3 enfants. Et puis, aujourd'hui, c'est spécial. On est accompagné de quelqu'un. Mon beau-frère Jean-Michel Fortin, qui est marié depuis 2 mois à la sœur de Maude, Evelyne. Et puis, félicitations pour votre beau mariage, c'était extraordinaire. Et puis, on a aussi Alexandre, le frère à Jean-Michel, qui lui est quarterback, alors va bientôt remplacer Anthony Calvillo, parce que vous savez, Anthony, il doit prendre sa retraite l'année prochaine. Alors, aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Hervé. Hervé, on t'a manqué! Ça fait quoi? 5 semaines en Afrique? Bon, on est content de voir que tu es revenu, sain et sauf, et puis on est content de te voir ce matin. Alors, beaucoup de joie de pouvoir te voir, mon cher ami. Alors, aujourd'hui, j'aimerais en fait vous poser une question. Une seule. Et puis, peut-être vous avez déjà eu l'expérience, quand vous étiez à l'université, d'avoir un examen qui avait une seule question. Ça, c'est toujours stressant. Moi, j'avais un professeur en chimie organique qui, lui, posait 4 questions. 4 questions sur son examen. Et puis, il fallait étudier toute la matière parce qu'on ne savait pas quelles 4 questions il allait poser. Mais, histoire vraie, un examen à une seule question. J'ai des collègues, quand j'étudiais, qui m'ont parlé, qui m'ont dit, ce professeur-là, en anatomie, il nous a déjà fait un examen à une seule question. Vous pouvez imaginer l'anatomie. Tous les muscles, tous les os, tous les organes, tout plein de noms latins compliqués à apprendre. Et puis, tu arrives à l'examen. Et puis, il y a une seule question. Puis, la question de l'examen, c'était d'écrivez en 20 pages ou plus le trajet que va prendre le globule rouge lorsqu'elle sort de la ventricule droite jusqu'à son de la ventricule gauche jusqu'à son retour à l'atrium droit. Tout le trajet qu'elle va faire dans le corps humain. Alors, je remercie Dieu que lorsque ça a été mon tour de prendre ce cours d'anatomie-là, on n'a pas eu ce supplice. Je pense que peut-être le professeur l'a essayé une fois, puis n'a jamais répété l'expérience. Mais aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous poser une seule question. Mais cette question-là est certainement la question la plus importante pour vous personnellement, mais pour l'humanité tout entière. Une question bien plus importante que tous les problèmes démesurés, que tous les problèmes démesurés et grandissants de notre système de santé. Bien plus important que le réchauffement planétaire. Et les phénomènes météorologiques, notamment les tsunamis, les tornades. Bien plus important que le risque qu'un météorite gigantesque frappe notre Terre. C'est une question bien plus importante que tous les crises humanitaires et toutes les crises personnelles qu'un individu peut vivre au cours de sa vie. La question devant nous ce matin, qui est Dieu? Qui est Dieu? Voici une citation que j'ai traduite de A.W. Tozer. Ce qui vient à notre esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante pour nous. L'histoire de l'humanité va probablement montrer qu'aucun peuple n'a jamais dépassé sa religion. Et l'histoire spirituelle de l'homme va démontrer positivement qu'aucune religion n'a jamais été aussi grand que son idée de Dieu. Le culte est pur ou immoral selon la pensée que se fait l'adorateur à propos de Dieu. Pour cette raison, la question la plus importante devant l'Église est toujours Dieu lui-même. Et le fait le plus important de n'importe quel homme n'est pas ce qu'il peut dire ou faire à un moment donné, mais bien ce qu'il croit au sujet de Dieu au plus profond de son cœur. Nous vivons une époque où bien des gens croient que Dieu est très loin. Plusieurs croient que Dieu, qu'il y a un Dieu, mais ils ne tombent pas à genoux à la croix. Et ils n'adorent pas le seul vrai Dieu pour autant. D'autres sont agnostiques et croient que Dieu ne peut pas être connu. Il y a des gens qui croient que Dieu existe uniquement pour les rendre personnellement heureux. Et quand ils ne sont pas heureux, ils sont déçus de Dieu. Et il y a des gens qui inventent leur propre Dieu dans leur tête. Ils se disent que eux aiment voir Dieu de telle ou telle manière. Ils aiment à penser que Dieu est comme ça ou comme ça. J'aimerais vous dire, tous les dieux d'invention humaine vont décevoir, spécialement au jour du malheur. Voici encore A.W. Tozer. Parmi les péchés dont le cœur humain est enclin, il n'y a pas de plus ignoble à Dieu que l'idolâtrie. L'idolâtrie est au fond une diffamation sur son caractère. Le cœur idolâtre suppose que Dieu est autre que Dieu est, en soi un péché monstrueux, et substitue pour le vrai Dieu un remplacement fabriqué d'après sa propre ressemblance. Ce Dieu fabriqué sera conforme à l'image de celui qui l'a créé et selon l'état moral ou l'esprit d'où il ressort. En fait, Tozer est en train de dire que c'est dangereux de dire « Moi, j'aime penser que Dieu est de telle ou telle manière. » Tozer nous rappelle que c'est de l'idolâtrie. Adorer le Dieu de notre fabrication est adorer un Dieu qui n'existe pas. La simple vérité qui émerge de la Bible est que l'on peut connaître le Dieu de l'univers, et le connaître est la chose la plus satisfaisante que nous pouvons faire. Daniel, au chapitre 11, au verset 32, tournez-y pas, nous dit que croire en Dieu, que ceux qui croient en Dieu seront forts et accompliront de grands exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu ont de l'espoir. Ceux qui connaissent Dieu sont capables de pardonner à leurs ennemis. Ceux qui connaissent Dieu vivent en paix, même dans la tumulte. Ceux qui connaissent Dieu sont capables de bien plus qu'ils pourraient imaginer. J'aimerais demander à Flaubert de venir. On va avoir besoin du micro, c'est lui. Le texte que Flaubert va nous lire, c'est un texte de 25 versets. C'est probablement un des textes les plus magnifiques de la Bible. Et puis, j'aimerais qu'on le lise en sachant que c'est une invitation à connaître Dieu. Ésaïe, chapitre 40, versets 6 à 31. Je te laisse le lutrin.
Ésaïe, verset 40, chapitre 40, à partir du verset 6. Quelqu'un dit, crie. On répond, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire. Sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et il portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions du ciel avec la paume, jaugé dans une mesure toute la poussière de la terre, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a fixé une mesure au souffle du Seigneur qui lui donne des conseils. Avec qui a-t-il tenu conseil pour mieux comprendre quelque chose, qui lui a appris le sentier de l'équité, qui lui a appris la connaissance, qui lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. Les nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles comptent comme la poussière sur une balance. Les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher. Et ces animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Elles comptent moins pour lui que néant et chaos. À qui voulez-vous comparer Dieu? Que présenterez-vous qui lui ressemble? C'est un artisan qui fond la statue et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il cherche un artisan habile pour dresser une statue qui ne vacille pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris que ce que sont les fondations de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des criquets. Il déploie le ciel comme une étoffe légère. Il étend comme une tente pour y habiter. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au chaos les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre qui souffle sur eux et ils se dessèchent. Une tempête les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'y en a pas une qui fasse défaut.
Merci, Flaubert. Prions. Oui, merci, Seigneur, pour ce texte, cette invitation à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Aide-nous, bon Père, à puiser les vérités éternelles qui se retrouvent dans ce texte, les paroles de vie pour toute l'Assemblée. Que ton saint nom soit glorifié ce matin. Amen. Un passage remarquable de la Bible qui nous présente qui est Dieu. Selon le texte, avant de pouvoir connaître Dieu, il y a deux prérequis. Nous devons savoir qui nous sommes. C'est le premier prérequis. Au verset 6 du chapitre 40, une voix dit « Crie ». Et il répondit « Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. Regardez votre main. Touchez-la. C'est de la chair. Dans un peu de temps, votre chair ne sera plus. » Du plastique, ça va être là encore beaucoup plus longtemps que votre chair. Tout comme l'herbe, vous êtes biodégradable. Et dans quelque temps encore, tous ceux qui vous ont connus et tous ceux qui auront connu ceux qui vous ont connus ne seront plus. Eh bien, vite, une nouvelle génération va se lever sur cette terre et personne ne se rappellera de vous. Pour réellement connaître Dieu, nous devons connaître ce qui est périssable et ce qui est éternel. Je me rappelle d'une dame qui venait à notre groupe de prière à Vancouver. Cette dame avait des grands enfants. Cette dame était divorcée. Elle avait des grands enfants qui devraient être autonomes, mais elle avait toujours besoin de les aider. Elle venait d'apprendre que son employeur, un chrétien, allait la mettre à la porte à la fin de l'année. Elle vivait beaucoup de découragement. Et puis, elle écoutait un prédicateur à la télé qui disait « Tough times don't last, tough people do. » Les temps difficiles ne durent pas. Les gens tough, eux, durent. Et puis, ce prédicateur à la télé a même écrit un livre qui porte ce même nom. Et puis, elle l'a amené au groupe de prière, puis elle m'a dit, j'ai lu ça. Et puis moi, je me dis, les personnes tough, les durs de durs ne durent pas. Pensez à Alexandre le Grand. Pensez à Napoléon. Pensez à tous les conquérants. Ils ne sont plus là. Pour passer à travers les épreuves de la vie, nous n'avons pas besoin de devenir tough. Nous avons simplement à attendre la délivrance de Dieu qui subsiste éternellement. Nous devons être humbles pour connaître Dieu. Nous devons connaître la différence entre ce qui est périssable, nous, et ce qui subsiste éternellement, Dieu. L'humilité, c'est le premier prérequis pour connaître Dieu. Le deuxième prérequis, c'est de reconnaître sa parole comme vérité éternelle. Au verset 8, on lit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Dans une éternité passée, Dieu était. Il est le créateur de toutes choses, mais lui-même n'a pas été créé. Lui qui est sans origine est l'origine de toutes choses. Dans la foi chrétienne, on utilise le terme « parole de Dieu » de trois manières. Quand Dieu parle littéralement, Dieu a simplement parlé et l'univers est apparu. Telle est la nature de la parole de Dieu. Deuxièmement, Jésus est la parole de Dieu, faite chair, qui a vécu sur terre parmi nous. La Bible est aussi la parole de Dieu, préservée pour les générations passées, présentes, et si Dieu tarde sa venue, elle va être encore là pour les générations futures. Rappelons-nous que nous sommes temporaires et la parole de Dieu est éternelle. Si on approche Dieu gonflé d'orgueil, se vantant de nos propres capacités, de nos mérites, de nos accomplissements, Dieu va toujours cacher sa face de nous. Et c'est absolument nécessaire que ça soit ainsi. C'est un prérequis. Il y a quatre choses à retenir d'après ce passage sur la puissance de Dieu. La première chose, la puissance de Dieu n'a aucune limite. Verset 12. « Qui a mesuré les eaux de sa, dans le creux de sa main, pris les dimensions de l'univers avec sa paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes sur un crochet et les collines à la balance? Regardez votre main. Combien d'eau pensez-vous qu'elle peut contenir? » Le texte nous dit que la main de Dieu peut contenir tous les océans, les mers, les rivières, les lacs, tous les bassins d'eau qui sont sur terre. Il y a 1260 millions de trillions de litres d'eau sur terre. 71% de la planète est recouverte d'eau. Toutes ces litres d'eau sont contenues dans le creux de la main de Dieu. Par contre, n'allez pas penser que Dieu est comme nous, avec un corps, des mains, des bras. Non, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il ne peut être vu. On pourrait se poser la question, pourquoi ce texte nous décrit Dieu de cette manière? Les choses qui nous semblent si vastes, si immenses, si impossibles pour nous, sont une chose de rien pour Dieu. Voilà pourquoi le texte nous présente Dieu de cette manière. Et le passage continue, ça dit qu'avec la paume de sa main, il est capable de mesurer l'univers en entier. 93 milliards d'années-lumière en diamètre, mesurés par la paume de la main de Dieu. Ça nous dit aussi qu'il ramasse la poussière de la terre dans un tiers de mesure. On pourrait penser que, en fait, c'est un panier, un tiers de mesure, c'est un panier. Alors, il ramasse toute la poussière de la terre dans un panier. Ça me fait penser à un porte-poussière. On passe le balai, on fait un petit tas, dans le porte-poussière. Pas plus compliqué que ça pour Dieu. Ramasser toute la poussière de la terre, mettre ça dans un petit panier. Dieu nous dit que pour lui, toute la poussière de la terre est comme un petit tas de saleté qui est facilement balayé dans un porte-poussière. Et non seulement ça, Dieu dit qu'il pèse toute la terre sur sa balance. Toutes ces choses sont des petites choses pour Dieu. Et c'est important de le réaliser. Parce que notre Dieu est beaucoup trop petit. On rend gloire à ce qui est temporaire. On a peur des gens. On est impressionné par des athlètes, par des gens qui ont beaucoup d'argent, par des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Mais on n'est pas impressionné par Dieu. Il y a même des gens qui croient que Dieu a des besoins que seulement nous pouvons accomplir pour lui. Il y a à peu près 12 ans, je rendais visite à un ami. Et puis, on est allé à son église à Kingston. Et puis, le pasteur disait, et puis je m'en suis toujours rappelé parce que c'est faux. Le pasteur disait que Dieu n'a pas de main, sauf nos mains, pour faire du bien autour de nous. Que Dieu n'a pas de pieds, sauf nos pieds, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous n'avons pas donné à Dieu des mains et des pieds. C'est Dieu qui nous a donné nos mains et nos pieds. Il est le créateur de tout. L'apôtre Paul dit dans Actes, chapitre 17, verset 25, « Il, en fait Dieu, n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. » Dans Psaume, chapitre 50, au verset 12, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il contient. » Il y en a d'autres qui pensent que Dieu était en train de mourir d'ennui, qu'il avait absolument besoin de compagnons. Alors, il nous a créés. Mais Dieu n'est pas en manque de compagnie. Dieu ne nous a pas créés pour combler un manque en lui-même. Ésaïe 43, verset 7, nous dit que Dieu nous a créés comme une expression de sa grandeur et non de ses lacunes. La création est une réflexion de sa majesté. Plusieurs ont de la misère avec le Dieu de notre imagination. Et quand il nous déçoit, on se dit, « Bon, mais Dieu, je t'avais imaginé comme ça, tu n'es pas comme ça, donc je m'éloigne de toi. J'ai plus besoin de toi. J'arrête de lire ma Bible. J'arrête d'aller à l'église. J'arrête de penser à toi. J'arrête de méditer sur toi. J'arrête d'essayer de m'approcher de toi parce que tu m'as déçu. Tu n'es pas comme je pensais que tu étais. » Mais la réaction normale à avoir devant l'immense majesté de Dieu n'est pas de barguiner, de dire « Dieu, tu n'es pas comme ça, tu ne m'as pas donné ça, tu n'as pas fait ci, donc je m'en vais. » Non, ce n'est pas ça la réaction normale qu'on devrait avoir devant le grand Dieu de l'univers, devant la majesté insondable, incompréhensible de Dieu. On ne devrait pas non plus retenir notre souffle et puis donner des coups de pied jusqu'à ce que nos lèvres deviennent bleues, et puis aller bouder dans le coin. Non, la réaction normale est juste, et d'adorer Dieu, et de s'humilier devant lui, et de dire « Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de Dieu. » Parfois, on se convainc soi-même que Dieu a vraiment besoin de nous. Oh Dieu, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Premier voyage missionnaire. J'étais au Zimbabwe. Et puis là, il y a des gens qui m'ont dit, « Mais voyons donc, Zimbabwe, ça n'existe pas. » Oh oui, ça existe, le Zimbabwe, c'est un vrai pays. J'étais au Zimbabwe, et puis j'étais en voyage missionnaire, là, J'étais tout jeune, là, je ne sais plus quel âge j'avais. Et puis, on demande au moniteur, parce que je travaillais dans un camp chrétien là-bas, pendant les vacances estivales. Et puis, on avait une soixantaine de jeunes au camp. J'étais un des moniteurs. Puis là, on demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait faire l'appel ce soir autour du feu de camp? Expliquer le plan du salut, puis faire un appel. Il n'y avait pas de volontaire. Alors, je dis, bon, je vais le faire. Tu sais. Alors là, j'étais très stressé, je préparais quelque chose, puis des versets, puis finalement, je me rappelle d'une histoire, puis là, je raconte l'histoire. Puis là, autour du feu de camp, là, c'était à mon tour, puis là, je me lève, puis là, j'étais rempli de confiance, puis là, je leur explique le plan du salut, puis je fais un appel, puis après le feu de camp, quand tous les campeurs étaient allés se coucher, là, le monde, il dit, « Hey, c'est Billy Graham! » Hey, là, c'était extraordinaire, c'était percutant, c'était bon, wow! Hey, là, j'ai dit, Dieu, t'as vraiment besoin de moi, hein? Faut que je recommence ça, là. Hey, j'ai du talent. Alors là, la prochaine occasion qu'il y avait besoin de quelqu'un, ben là, je lève la main, là, j'attends pas que tout le monde décline, puis là, je lève la main. Non, je suis le premier. Oh oui, je vais le faire, je vais le faire. Oh oui, checkez bien ça. Flop monumental. Flop monumental. La sauce n'a pas pris, comme on dit. Ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de... Ça venait de moi. Ça venait de moi. Dieu n'était pas là. Dieu n'a pas besoin de moi. Puis ça, ça a été une leçon. Dieu n'a pas besoin de moi. La sagesse et connaissance de Dieu sont complètes. Numéro 2. Numéro 1, c'était la puissance de Dieu n'a aucune limite. Deuxième point, la sagesse et connaissance de Dieu sont complètes. Verset 13 du chapitre 40, « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? » Verset 14, « Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? » Voici une série de questions que vous devriez connaître la réponse. Qui? Qui? Personne. Personne peut instruire Dieu. Ces questions ont pour but de mettre Dieu en contraste avec nous. Dieu n'apprend rien. Il n'a jamais appris quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau pour lui à apprendre. Peut-être que vous êtes expert dans un domaine. Peut-être que vous connaissez beaucoup de choses sur un sujet. Si Dieu s'assoirait dans votre bureau en face de vous, vous ne pourriez rien lui apprendre sur ce sujet. Rien. Lui pourrait vous en apprendre. Lui pourrait vous en apprendre bien plus que vous connaissez sur ce sujet. Dieu ne mature pas. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Il sait tout. Malachie, au chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Nous, nous sommes changés par la connaissance que nous acquérions, mais Dieu connaît déjà tout. Donc, il demeure sans changement. Dieu ne dit pas une chose, et après ça, change d'idée parce qu'un nouveau... Une nouvelle circonstance qu'il n'avait pas anticipée, une nouvelle situation qu'il n'avait pas anticipée vient de se présenter devant lui. Change pas. Proverbe chapitre 9 au verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint est l'intelligence. » On doit craindre Dieu. Parce que c'est le commencement de la sagesse. On a vu la puissance de Dieu qui n'a aucune limite. On a vu la sagesse et la connaissance de Dieu qui sont complètes. Et le troisième point, Dieu règne sur le monde sans effort. Au verset 15, « Voici, les nations sont comme une goutte d'eau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. » Au verset 17, on va sauter le verset 16, au verset 17, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Dans le fond, ici, l'idée, c'est que toutes les nations sont une goutte d'eau d'un seau. Une goutte qui tombe d'un seau. En fait, si vous êtes en train de transporter un seau d'eau, et puis je vous dis, je vais rajouter une goutte d'eau. Une goutte. Est-ce que vous allez dire, « Ah, Mathieu, maintenant, je ne suis plus capable de transporter ce seau. Ce seau est rendu beaucoup trop pesant. » Toutes les nations sont comme une goutte d'eau. Dieu n'est pas à bout de souffle. Il n'est pas en train de forcer un malade. Ses veines ne sont pas en train d'éclater sur son front. Tellement il force, tellement il est en train d'utiliser toutes ses ressources pour retenir toutes les nations, pour supporter les nations. Il n'est pas essoufflé. Dieu règne sur toute l'univers sans effort. Dieu règne sur tout l'univers sans effort. Certains d'entre nous ont de la misère avec ça. Si c'est vrai, comment se peut-il que les nations ne sont pas si bien gérées? Pourquoi il y a de la corruption? Pourquoi il y a tant de famine? Pourquoi il y a tant de gens qui souffrent? Psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Dans tous les abîmes. Partout sur la terre. Même dans les cieux, tout ce qu'il veut, faire, il le fait. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il a élevé Stephen Harper, Barack Obama, tous les dirigeants du monde, même Pauline Marois. Et puis un jour, il va nous en débarrasser. Lorsqu'il va l'avoir décidé. Selon son horaire, tous les pouvoirs de tous les dirigeants de la terre sont pour Dieu moins que rien. Malgré leurs actions, leurs décisions, leurs désirs, leurs intentions, ils accomplissent le plan de Dieu sans même le savoir. Pensez à Joseph et ses frères. Pensez aussi au Pharaon. Plusieurs viennent à Dieu et disent, « Comment as-tu pu? » Puis là, « Comment as-tu pu permettre? » Et puis là, ils remplissent, ils continuent la phrase. « Comment as-tu pu permettre? » Et puis, c'est un mystère pour nous. On ne peut pas poser cette question. Ce n'est pas une question qu'on peut poser. Job l'a posée à Dieu. Au chapitre 40 de Job, au verset 8, Dieu lui répond. anéantirais-tu mon jugement? Me condamnerais-tu pour te justifier? Peut-être que vous dites, oui, OK, mais j'exige que Dieu réponde et rende des comptes. À la fin, mes chers amis, ce n'est pas Dieu qui va répondre, c'est Dieu qui va poser les questions, ce n'est pas nous. On n'a pas le droit de questionner Dieu. Et puis, même les non-croyants le savent. Avez-vous déjà entendu l'expression « Pour qui te prends-tu, Dieu? » Les non-croyants le savent que Dieu a le droit de faire des choses que les hommes n'ont pas le droit. Il a le droit de diriger le monde selon sa gloire et non la nôtre. Pourquoi? Il est Dieu. Il y a un pasteur qui a déjà partagé ceci, puis j'ai trouvé ça excellent. La bonne nouvelle est qu'à la croix de notre Seigneur Jésus, la gloire de Dieu et la miséricorde de Dieu se sont entrecroisées et c'est là que nous trouvons la paix. Nous devons comprendre la gloire de Dieu pour bien comprendre son amour pour nous, qui nous donne la paix. Le quatrième point, Dieu est en dehors de la compréhension humaine. Au verset 18, on lit, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image feriez-vous son égal? » Si on saute au verset 25, « À qui me compariez-vous pour que je lui ressemble? » dit le saint. Vous savez, j'ai 3 enfants. Je commence à comprendre un petit peu comment un enfant apprend. Un enfant, ça apprend en comparant. Alors, si vous avez un enfant, vous le savez. Si vous n'en avez pas, prenez des notes. OK? Un pigeon, un aigle, une autruche, un pingouin, une poule, c'est toutes des oiseaux. Ça rentre dans la catégorie oiseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des plumes, ils ont des becs, ils pondent des œufs. Probablement que toute la connaissance humaine se fait sur la base des comparatifs, d'un certain système de classement. Mais quand on arrive à Dieu, toutes nos catégories font défaut. On ne peut pas le comprendre. Si nous voulons savoir quelque chose dans notre ère où on est rendu, c'est bien à la mode de consulter un expert. Ça vous prend un expert. Alors, exemple, vous pourriez consulter Pierre Mayette ou JP si vous voulez construire un garage et puis vous voulez être sûr qu'il va être assez solide pour supporter le poids de la neige. Ils vont vous dire quelle grosseur de madrier, combien de vis, combien de boulons, combien de clous, qu'est-ce qui va être une structure solide. Si vous voulez faire le meilleur café, là, le meilleur café, vous pouvez demander à Joël. Hein? Ou Mathieu Farley. Lui, eux autres, ils vont vous dire comment faire le meilleur café. Si vous voulez qu'on vous instruise sur l'hébreu et le grec, vous demandez à JS, Jean-Sébastien Roy, il va vous en parler, c'est un expert. Si vous cherchez plutôt de l'information sur quelle est la meilleure marque de couche ou de détergent à lessive, vous demandez à André Chartrand. Des experts. Qui est l'expert sur Dieu? Qui est l'expert sur Dieu? C'est Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi on appelle Dieu Père? Pourquoi? Parce qu'il nous l'a dit de l'appeler Père. C'est lui qui nous l'a appris. tous les attributs que nous connaissons sur Dieu sont seulement ceux que lui-même nous a révélés sur lui-même. Comme les enfants apprennent à parler en répétant les paroles de leurs parents, nous aussi, nous apprenons sur Dieu en répétant après lui, selon la révélation qu'il nous a donnée. La question n'est pas qu'est-ce que nous pensons à propos de Dieu, mais bien qu'est-ce que Dieu a dit de lui-même. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez savoir ce qu'il dit et non ce que vous ressentez, parce que votre cœur, dans les mots de Jérémie, est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. On ne peut pas se fier à nous-mêmes pour savoir comment Dieu est. On ne peut pas se fier à notre propre intelligence, à notre propre cœur, à nos propres émotions. C'est Dieu qui révèle Dieu. C'est Dieu l'expert sur Dieu. Deux réponses sont nécessaires à la connaissance de Dieu. La première, c'est l'adoration. L'adoration, c'est en fait la réponse du cœur qui a vu la face de Dieu. Au verset 26, ça dit « Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Réalisez comment Dieu est grand. Regardez en haut, louez Dieu, adorez Dieu. Vous avez reçu la connaissance. Vous savez qui est Dieu. Maintenant, adorez Dieu. » La deuxième chose, c'est la foi. La foi, c'est la conséquence, c'est la réponse à la connaissance de Dieu. La gloire de Dieu est pour notre bénéfice. Si nous sommes à court de ressources, lui n'a aucune limite. Par la foi en lui, nous sommes sauvés, nous sommes restaurés. Au verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Au verset 30, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. L'examen de ce matin avait une seule question. Qui est Dieu? Il est grand, puissant, sage, tout connaissant, amoureux et juge de l'humanité tout entière. Merci.